Chers amis, chers camarades, travailleuses, travailleurs, nous nous retrouvons donc ce soir pour un meeting électoral. Et vous le savez peut-être, lutte ouvrière se fait un devoir de participer à toutes les élections. Parce que quand on nous donne la parole, eh bien il faut la prendre. Quand on est en colère, il faut le dire. Et quand on a des revendications et des idées, il faut les défendre, que ce soit là où l'on travaille, là où l'on vit, et puis aussi dans les élections. Mais je tiens quand même à redire que l'avenir des travailleurs ou l'amélioration de leur sort ne se joue pas dans les élections. Il se joue dans les entreprises, dans les hôpitaux, par exemple. Il se joue dans le rapport de force que les travailleurs sont en mesure d'imposer au grand patronat. Il se joue dans les rassemblements, dans les grèves, les manifestations, les occupations d'usines aussi. En fait, il se joue dans la lutte de classe. Et cette lutte de classe ne s'arrête jamais. Pendant la pandémie, elle a continué. Il faut se rappeler comment, au premier confinement, tous les salariés de la santé, comme Claire vient de le dire, mais aussi les ouvriers de l'agroalimentaire, les caissières, les éboueurs, ont été envoyés au front, sans moyen de se protéger, sans masque, sans gants et bien sûr sans test. Et puis, combien de patrons ont joué la peau de leurs salariés à la roulette russe en voulant coûte que coûte produire leurs profits? Alors aujourd'hui, la lutte de classe a repris son cours normal, pourrait-on dire. Les salariés qui ont tenu la société debout pendant la crise sanitaire continuent donc d'être méprisés, surexploités et sous-payés. Et le retour à la normale, parce que voilà, les restaurants rouvrent, les piscines rouvrent, eh bien le retour à la normale, c'est que après une épidémie qui a fait plus de 110 000 morts et qui a saturé les hôpitaux, les fermetures de lits se poursuivent. La normalité, c'est que les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de vie sont toujours payés au lance-pierre. La normalité, c'est que les gens sont surexploités et lessivés par des cadences infernales, pendant que d'autres crèvent au chômage. C'est que l'on peut trimer du matin au soir sans réussir à joindre les deux bouts quand une minorité capitaliste encaisse le jackpot à chaque heure qui passe. Le chômage a explosé. Eh bien, la normalité, c'est que tous les grands groupes riches à milliards continuent de supprimer des emplois. C'est qu'au lieu d'embaucher, l'État et les collectivités locales imposent à leurs salariés de travailler plus en leur volant des jours de congé. Et puis, c'est que le gouvernement a même décidé de baisser considérablement les allocations chômage. La normalité de cette société capitaliste, c'est encore que les femmes qui veulent fuir un conjoint violent, n'ont pas de logement où se réfugier, mais sont invités à téléphoner à une plateforme d'écoute. C'est que les expulsions locatives reprennent, pendant que les plus riches se ruent sur les manoirs et les châteaux et reprennent possession des palaces et des suites à 5000 euros la nuit. La normalité, c'est que des groupes de jeunes érythréens, afghans, éthiopiens, tunisiens, errent à la recherche d'un petit coin de terre et sont arrêtés, traqués, pendant que quelques millionnaires se programment une petite sortie dans l'espace, à bord des fusées affrétées par Jeff Bezos et Elon Musk. C'est une normalité qui est de plus en plus inhumaine et barbare. Tous les autres candidats dans ces élections régionales postulent pour gérer cette normalité-là, avec des promesses d'ailleurs dérisoires. Eh bien nous ne voulons pas être les gestionnaires de cette société qui ne fonctionne bien que pour les riches. Cette société-là, il faut la changer. Et le seul programme qui vaille pour les travailleurs, eh bien, c'est la conscience qu'ils doivent s'organiser pour défendre leurs conditions d'existence. Ce qui se passe avec la vaccination montre que la propriété capitaliste est devenue un obstacle au progrès de tous. Des continents entiers, dont l'Afrique, ne reçoivent quasiment pas de vaccins. On a vu ce que cela donnait en effet en Inde, pourtant réputée pour être, avec la Chine, l'armoire à pharmacie mondiale. En transformant les vaccins en propriété privée ô combien rentable, les trusts pharmaceutiques ont des morts sur la conscience, parce que chaque semaine de retard dans la vaccination coûte la vie à des milliers de personnes dans le monde. Cette propriété capitaliste, la loi du profit, la concurrence, nous empêchent d'agir collectivement et efficacement dans cette crise sanitaire. Mais c'est vrai dans tous les autres domaines. Dans le cadre du capitalisme, il n'y a pas de solution à la précarité, à la misère ou aux inégalités, puisqu'il est basé sur l'exploitation et parce que la richesse des uns se fait sur l'appauvrissement des autres. Dans le cadre du capitalisme, il n'y a pas de solution au sous-développement, ni même à la famine, puisque tout se vend et s'achète jusqu'au dernier grain de riz. À la moindre augmentation du cours des semences à la bourse de Chicago, ce sont des millions de femmes et d'hommes qui sont menacés de ne plus manger à leur faim. Cela alors que nous sommes capables de produire plus de nourriture qu'il en faut pour alimenter la population de la planète. Dans le cadre du capitalisme, il n'y a pas non plus de solution à la crise climatique et écologique, puisqu'au nom de leurs profits, les grands groupes capitalistes s'octroient le droit illimité d'exploiter les ressources naturelles, comme ils le font pour les hommes d'ailleurs. Quant à la concurrence, au marché et à la loi de l'offre et de la demande, elles ne peuvent que conduire à la désorganisation et à un gaspillage inouï des ressources naturelles. Et puis, écoutez les bruits de bottes, ils montent de tous les côtés. Aucune des tensions qui font du Moyen-Orient une poudrière ne sont en passe d'être résolues. Aucune de celles qui mettent régulièrement des régions d'Afrique à feu et à sang. Et c'est pareil dans l'Est de l'Europe, pareil en Asie. Et dans ce contexte de guerre commerciale exacerbée, nous courons droit à une nouvelle guerre froide entre les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, voire avec la Russie. Alors voilà ce que nous réservent les lois du capitalisme et la domination de la bourgeoisie. En présentant des listes communistes révolutionnaires à l'échelle de tout le pays, nous disons aux travailleurs, aux chômeurs, aux jeunes et aux retraités des classes populaires, ne donnez pas votre voix à des partis qui défendent ou qui se résignent à cet ordre social. Votez pour défendre les intérêts des travailleurs et pour affirmer qu'il faut changer toute la société. Vous pouvez questionner n'importe quel politicien sur n'importe quel problème. Il vous dira toujours qu'il a une solution, qu'il sait ce qu'il faut faire concrètement. En matière de sécurité, par exemple, c'est Yaka Foucault. Tout le monde a une idée hein, pour lutter contre la délinquance, les incivilités ou les trafics, sauf qu'ils se sont presque tous relayés au pouvoir sans jamais y mettre fin. Parce que ce qu'ils présentent comme des solutions concrètes n'en sont pas. Tant qu'il sera possible de toucher un mois de SMIC en une journée de deal, les voyous trouveront dans les quartiers populaires des volontaires pour faire leur sale boulot. Tant qu'une partie de la jeunesse sera abandonnée et rejetée par la société, bien sûr que les fanatiques religieux trouveront des oreilles attentives. Et ce ne sont pas les peines de prison alourdies qui les retiendra. Toute cette société, toute cette violence, est le signe d'une société malade, d'une société en état de décomposition avancée, justement à cause du chômage, de la misère et de la disparition de tout ce qui existait, ne serait-ce que pour soigner les maladies psychiatriques ou pour répondre à la détresse sociale. Et puis, il faut bien dire que l'exemple vient d'en haut. Le propre du capitalisme, c'est précisément l'individualisme, l'appât du gain, le chacun pour soi, la cupidité, la loi du plus fort. C'est une société de l'argent facile, où on réussit en écrasant l'autre. La surenchère sécuritaire ne peut pas résoudre ce problème de violence. C'est de la démagogie électorale qui peut faire des voix, et quasiment tous les politiciens s'y engouffrent, sans vergogne, y compris en couvrant les exactions et les violences policières, y compris si cela conduit à alimenter les amalgames et les préjugés racistes contre les immigrés et contre les musulmans. Si ces politiciens ne nous dirigent pas droit vers une nouvelle guerre, ils poussent la société vers une société de plus en plus réactionnaire, de plus en plus marquée par le racisme, le rejet de l'autre, la xénophobie et le nationalisme. Le courant réactionnaire est tellement fort que l'on a vu le secrétaire national du PCF manifester aux côtés des policiers, de Darmanin, Zemmour et Bardella du Rassemblement national. Eh bien, camarades, nous sommes à contre-courant, mais il faut tenir et continuer de le dire. Pour lutter contre l'insécurité, il faut lutter contre le chômage, la précarité et les inégalités. Il faut demander des comptes à ses dirigeants, à la tête du gouvernement et des grands groupes qui portent du costard-cravate et qui ont droit à tous les honneurs, mais qui sèment la misère ici et aux quatre coins du monde. Le gouvernement parle de reprise économique et de plan de relance. Et oui, il n'y a pas de doute, avec les milliards qu'il a injectés dans les grands groupes capitalistes, il y aura une reprise des profits et des dividendes. Mais cela ne veut pas dire que l'économie va se développer pour nous, pour répondre enfin à nos besoins et pour que les générations futures vivent mieux. La crise est devenue le mode de fonctionnement normal du capitalisme. Ce système a plus de deux siècles. C'est un système qui est arrivé en bout de course, avec des marchés saturés et une concurrence exacerbée, ce qui pousse la bourgeoisie à récupérer le maximum de profits sur le dos des travailleurs au travers d'exploitations. Dans toutes les entreprises, le grand patronat aggrave les cadences, allonge le temps de travail et impose plus de flexibilité. En plus de nous faire trimer toujours plus et encore, les capitalistes pillent les caisses de l'État. Tout cela pourquoi ? Pour accumuler des capitaux qu'ils joueront aux grands capitaux, aux grands casinos de la spéculation. Il y a quelques semaines, 1000 milliards de dollars sont ainsi partis en fumée avec l'effondrement de la valeur du Bitcoin. Cela n'a pas débouché sur un krach généralisé, mais c'est bien ce qui nous guette. Du matin au soir, les gouvernants nous expliquent qu'il faut des riches, car ils font progresser la société grâce à leur esprit d'entreprise. En réalité, pour que ces messieurs les capitalistes daignent investir une partie de leurs capitaux dans les investissements productifs, il faut que le gouvernement les supplie, et surtout qu'il leur apporte tout sur un plateau, les terrains, les locaux, les financements, la formation des salariés, quand ce n'est pas le salaire lui-même. Il faut que l'État leur garantissent leur compétitivité et leur taux de profit. Et c'est ce qu'il s'est passé avec les trusts pharmaceutiques. Ces Big Pharma ont d'abord profité largement des travaux développés dans des laboratoires publics depuis une vingtaine d'années, les fameux travaux sur l'ARN messager. Et puis, comme ils n'avaient pas les centres de production nécessaires, ce sont encore les États qui ont payé l'essentiel des investissements et des machines. Et puis, au final, par le jeu des lois sur la propriété privée, les vaccins sont devenus propriété de Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Leurs actionnaires se sont arrogés le droit de fixer le prix auquel les vaccins seraient vendus, à qui ils allaient vendre, au plus offrant bien sûr, et puis à quel rythme ils produiraient. Autrement dit, ces trusts pharmaceutiques se sont octroyés un droit de vie ou de mort sur la population pour engranger leurs profits. Alors c'est un système qui est devenu complètement fou, décadent, avec à sa tête une classe de plus en plus parasitaire. Il faut demander des comptes à la bourgeoisie et défendre la perspective de lui enlever les rênes de la société en l'expropriant. Cela a été l'objectif des premières générations de militants qui se sont réclamés du socialisme, puis du communisme. Eh bien, il doit rester celui de tous ceux qui visent à l'émancipation des exploités. travail, salaire, logement, santé, retraite, problèmes avec l'administration, vu tout ce qui peut nous tomber sur la tête, il est parfois difficile de savoir par quel bout se battre. Il est encore plus difficile de se dire qu'on doit demander des comptes à la classe capitaliste, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est un monde lointain et abstrait. Même avoir conscience d'appartenir à un même camp n'est pas simple, parce que la société écarte et marginalise de plus en plus de femmes et d'hommes. C'est la précarité qui fait que l'on a un pied dans l'entreprise, l'autre dehors. C'est le chômage intermittent ou total. C'est l'invalidité qui fait perdre tout espoir de reprendre un travail. Et puis, il y a le monde des retraités et des jeunes qui ne savent pas encore à quelle sauce ils seront mangés. Il y a aussi toute la diversité du monde du travail. Ceux qui sont dans les petits commerces, ceux qui sont dans le secteur public, qui ont donc l'État pour patron. Il y a même de plus en plus de salariés qui travaillent pour des associations. Il y a aussi de plus en plus d'exploités déguisés en auto-entrepreneurs ou en freelance. Même les salariés qui travaillent pour les grands groupes sont maintenant séparés par des filiales et autres entreprises sous-traitantes. Alors, entre la grande bourgeoisie, le grand patronat, ses grands actionnaires, et nous, il y a une série d'intermédiaires qui font écran. Et il est parfois difficile de faire le lien entre les décisions et l'enrichissement de cette classe capitaliste et les reculs et les privations que nous subissons au jour le jour. Mais nous travaillons tous pour faire prospérer cette classe sociale. Parce que le capitalisme est une immense machinerie qui aspire toutes les richesses à un pôle. Et parce que nous jouons tous un rôle dans ce système productif. Comment ferait le grand patronat sans le personnel de santé pour soigner ses salariés? Comment ferait-il sans les nourrices et les enseignants pour garder les enfants de ses salariés pour leur permettre d'aller au boulot? Comment ferait-il sans les transports publics? Derrière les mille et une situations individuelles, nous formons une seule et même chaîne nécessaire et indispensable au fonctionnement de ce système. Alors il ne faut pas raisonner à l'échelle individuelle. Il faut réaliser que derrière la diversité des cas particuliers, nous partageons un sort commun. Nous avons tous le même besoin. Il faut pouvoir gagner notre vie. Et bien c'est par là qu'il faut commencer. Nous avons tous besoin d'un emploi pour vivre. Eh bien, il faut travailler tous. Même quand il y a moins de travail à faire, il faut conserver tous les emplois et refuser que les CDD et les intérims soient mis à la porte. Il y a moins de travail, on peut le répartir entre tous, diminuer la charge de travail, baisser les cadences, réduire, bien sûr, la journée de travail, bien sûr, sans diminuer les salaires. Si nous ne voulons pas être traités comme des machines que l'on peut brancher, débrancher et mettre au rebut en fonction des fluctuations du marché, il faut imposer cette répartition du travail entre tous. Quasiment tous les politiciens, comme les directions syndicales d'ailleurs, brandissent le mot d'ordre de relocalisation. En faisant miroiter des relocalisations et des emplois que le patronat n'a d'ailleurs aucune intention de faire, ils font diversion. Et ils orientent la colère des travailleurs contre d'autres travailleurs, des ouvriers polonais, marocains, chinois, transformés en concurrents. En fait, il n'y a pas besoin de ramener le travail en France. Du travail, il y en a. Dans les hôpitaux et les EHPAD, les directions imposent le travail en 12 heures. Elles font pression sur le personnel pour qu'il renonce à ses congés. C'est bien qu'il y a du travail. Combien d'entreprises ont banalisé les heures supplémentaires, les périodes où il faut travailler 44 heures par semaine, voire plus? On ne compte plus les salariés usés, abîmés par les cadences et devenus inaptes. Et je ne parle même pas des besoins qui ne sont pas satisfaits, des logements qu'il faudrait construire, des transports publics qu'il faudrait développer. Le problème, ce n'est pas le manque de travail. C'est que la bourgeoisie veut payer le moins de salaire possible. Eh bien, il faut la faire payer, parce que cette répartition du travail changerait la vie de tous les travailleurs. Elle donnerait des perspectives à la jeunesse elle transformerait toute la société. Après Sarkozy, Macron et ses ministres aiment dire qu'il faut que le travail paye. Mais le travail ne paye pas. Des millions de salariés sont au SMIC et ne touchent même pas 1200 euros net. Et je ne parle pas de ceux qui sont à temps partiel. Non, dans cette société, ce qui rapporte, ce n'est pas le travail. C'est l'exploitation qui enrichit la classe capitaliste et lui permet d'accumuler rentes et dividendes de façon vertigineuse, sans rien faire de ses 10 doigts. À côté de cela, combien d'ouvriers du bâtiment passent leur vie à construire des logements sans parvenir eux-mêmes à se loger dignement? Une voiture sort toutes les 60 secondes des chaînes de montage automobile. Parmi les ouvriers et les intérimaires qui les fabriquent, combien roulent dans une vieille voiture? Combien d'employés dans les EHPAD n'ont pas suffisamment d'argent pour payer une place dans le même type de structure à leurs propres parents? L'écrasante majorité de la bourgeoisie a effacé les pertes de la crise. Mais pour des millions de travailleurs qui ont subi le chômage total ou partiel, cela mettra des mois, voire des années. Alors il faut remettre en avant l'objectif de prendre sur les profits pour augmenter les salaires, les allocations et les pensions de retraite. Et comme les prix recommencent à remonter dangereusement, il faut imposer l'indexation des salaires sur l'inflation. Au plus fort de la crise, Macron avait déclaré, vous vous en souvenez peut-être, « Il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Pour lui, ce n'était que des mots en l'air, mais pas pour nous. Oui, il faut remettre la société sur ses pieds. Nous ne dépendons pas de la grande bourgeoisie. C'est elle qui dépend de nous pour tout, y compris pour se faire à manger et garder ses enfants. Nous lui servons à tout. Elle ne nous sert à rien. Alors il faut le dire haut et fort. Nos emplois doivent passer avant les profits, nos salaires avant les dividendes et nos conditions de travail et de vie avant la course à la rentabilité. Les travailleurs d'abord. On ne peut pas faire confiance au grand patronat. Dans la crise sanitaire, combien d'entre eux ont caché les cas de Covid au risque de faire tomber les autres salariés malades? C'est souvent grâce au contrôle et à l'intervention des salariés eux-mêmes que les mesures sérieuses de protection ont pu se mettre en place. Eh bien, c'est la preuve qu'il faut mettre le grand patronat sous contrôle. Le contrôle des travailleurs est le seul moyen de s'opposer aux mensonges, au chantage et aux tripatouillages patronaux, consistant toujours à dire qu'il est impossible d'augmenter les salaires parce que c'est la crise et qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. C'est avec ce mensonge que Renault justifie de supprimer 15 000 emplois à l'échelle du groupe alors qu'il a accumulé 10 milliards de profits sur les 10 dernières années. C'est avec ce mensonge encore que Carrefour, Ikea, Amazon refusent d'augmenter les salaires alors qu'ils ont cassé la baraque pendant la crise. Parce que si la pandémie a été un drame, une période de grande souffrance pour nous tous, elle a été une aubaine pour de nombreux capitalistes. C'est vrai pour les Google, Facebook ou encore dans la grande distribution. Toutes les guerres et toutes les crises connaissent ça. Pendant que les uns pleurent leur mort, les autres comptent leurs profits. Pour que le monde du travail ne soit pas l'éternel sacrifié, il faut mettre le grand patronat sous contrôle. Tous les politiciens vantent la démocratie et la transparence, mais elles s'arrêtent aux portes des entreprises, c'est-à-dire là où se joue une grande partie de nos conditions de vie, et puis là où sont prises des décisions qui impactent toute la société. Les principaux actionnaires, ceux qui ne mettent jamais un pied dans l'entreprise et qui ne savent peut-être même pas ce qu'elle produit, peuvent tout connaître des véritables comptes de l'entreprise, pas les travailleurs qui produisent les richesses. C'est le monde à l'envers. L'État et les régions inondent le grand patronat d'argent public en permanence. C'est ce que Macron a appelé récemment le « quoi qu'il en coûte ». Mais il faut bien comprendre que c'est quoi qu'il en coûte aux travailleurs, aux classes populaires, parce que c'est à nous que le gouvernement va présenter la facture. Aux milliards distribués pour sauver les entreprises fermées pendant le confinement, s'ajoute aujourd'hui un plan de relance économique de 100 milliards. Ces 100 milliards, ils pourraient financer la création de 2,7 millions d'emplois par l'État lui-même, dans la santé, dans l'éducation, les transports publics. Ils pourraient servir pour construire des logements respectueux de l'environnement, sans en passer par les promoteurs privés, par exemple, ou encore... Il pourrait servir à créer un grand pôle pharmaceutique. Au lieu de cela, le gouvernement confie ses milliards à la bourgeoisie. Eh bien, si l'on veut que l'argent serve à relancer l'emploi et les salaires, et qu'il ne parte pas dans les caprices de riches ou dans la spéculation, il faut imposer un contrôle ouvrier. Si l'on veut empêcher le pillage des caisses publiques ou lutter contre l'évasion fiscale, il faut le contrôle ouvrier. Et si l'on veut s'assurer que les richesses de la société servent à satisfaire les besoins de toute la société, il faut le contrôle ouvrier. En l'absence de grandes luttes dans les entreprises, le mouvement des Gilets jaunes fait référence pour de nombreux salariés. Et il a en effet montré que la colère pouvait exploser sans qu'on la voie venir, sans même qu'aucune grande organisation syndicale ne s'en mêle. Mais un point significatif sur lequel il faut réfléchir, c'est que la mobilisation s'est faite sur la question du pouvoir d'achat, et pourtant, à aucun moment, le mouvement des Gilets jaunes n'a mis en avant l'objectif d'augmentation des salaires. Cela s'explique parce que les ouvriers engagés dans le mouvement ne se voyaient pas demander des comptes à leur patron. Mais il y avait aussi tous ceux qui pensaient, et qui pensent encore aujourd'hui, qu'augmenter les salaires est impossible. Et il ne faut pas en être surpris. Ce sont les idées patronales qui dominent la société. Les patrons n'ont même plus besoin de défendre ces idées eux-mêmes. Les journalistes, les nombreux chroniqueurs économiques, les intellectuels et les politiciens s'en chargent, du matin au soir. Tous ne raisonnent que du point de vue patronal. Et combien de salariés se laissent convaincre que le patronat paye déjà beaucoup de charges, comme ils disent, et qu'il est impossible pour lui d'augmenter les salaires ou de faire des embauches? Combien de salariés renoncent d'eux-mêmes à revendiquer ce qui leur est indispensable? Alors il ne suffit pas de vouloir se battre. Il faut aussi raisonner en travailleurs, à partir de nos besoins, de nos intérêts. Pour obtenir nos revendications, il faudra aller à l'encontre des lois de la compétitivité, du profit et de la concurrence. C'est vrai. Mais ces lois ne sont pas des lois de la nature. Elles ne profitent qu'à la bourgeoisie et elles conduisent toute la société à la catastrophe. Alors, avant que de nouvelles explosions sociales nous rattrapent, soyons le plus nombreux possible à affirmer une conscience de classe. Et dans ces élections, cela se traduit par le geste tout simple de voter pour son camp et de faire entendre le camp des travailleurs. La gestion capitaliste s'immisce dans tous les domaines de la vie sociale. Dans le domaine de la santé, bien sûr, on l'a dit, dans le domaine du handicap, de la dépendance, de la vieillesse. La bourgeoisie veut que tout rapporte du profit, que tout soit rentable et concurrentiel, parce qu'elle lorgne sur tout ce qui est possible pour faire fructifier ses capitaux. Et si demain, elle trouvait le moyen de faire des profits avec l'air que nous respirons, elle nous le ferait payer. Dans cette crise sanitaire, on a payé les conséquences de la gestion capitaliste des hôpitaux. Le paiement à l'acte et la recherche de la rentabilité à tous les étages, comme on paye aujourd'hui le monopole des trusts pharmaceutiques sur la fabrication des vaccins. Toute notre organisation sociale est dominée et dirigée par un grand patronat qui n'est responsable que vis-à-vis des actionnaires. Il ne s'agit pas de cupidité individuelle, c'est toute la logique du système que de pousser toujours plus à l'accumulation. Et pour rester dans le haut du panier, il leur faut être le plus gourmand, le plus rentable, il leur faut être le plus rapace des rapaces. Vis-à-vis de la société, la classe capitaliste est complètement irresponsable. Pour le monde du travail, c'est tout le contraire. Et on a vu pendant la crise sanitaire, et Claire l'a bien expliqué, on a vu que les travailleurs étaient responsables pour deux. Ils ont non seulement tenu leur poste essentiel, la peur au ventre et avec dévouement lors du premier confinement, mais ils ont aussi été à l'origine de mille et une initiatives. Ils ont organisé la solidarité dans les quartiers populaires pour distribuer de la nourriture, des livres, pour coudre des masques. Parce que notre camp, le camp des travailleurs, n'a pas d'autres intérêts que ceux de l'écrasante majorité de la population. Et quand les salariés des hôpitaux se battent contre les suppressions de lits et pour de meilleures conditions de travail, eh bien ils se battent pour l'intérêt général. Quand ceux des transports se battent pour que la maintenance ne se fasse pas au rabais ou pour que des lignes ne soient pas vendues à des capitalistes privés uniquement soucieux de faire leur argent, ils se battent pour les intérêts des usagers. Lorsque les enseignants réclament de travailler en petits groupes, ils se battent pour leurs conditions de travail et pour les intérêts des élèves. Et quand les salariés se battent pour ne pas être licenciés, et là, la liste est longue, eh bien, ils se battent aussi contre le chômage. En réalité, ce sont même les seuls à véritablement combattre le chômage. Alors oui, eux aussi, ils se battent pour toute la société. Alors il faut que les travailleurs revendiquent avec fierté la direction de cette société, le pouvoir sur l'économie et sur la politique. Avec fierté, il faut qu'ils affirment qu'ils font tourner la société, ils doivent la diriger. Au pouvoir, les travailleurs ne seraient pas aveuglés par l'accumulation du capital. Nous serions guidés par les intérêts communs au plus grand nombre, satisfaire les besoins vitaux de tous, non seulement à l'échelle de la France, mais aussi du monde tout entier. Alors votez pour les listes lutte ouvrière qui affirment cela, qui affirment que les travailleurs font tout fonctionner, et bien ils sont capables de diriger la société. La crise actuelle peut donner le meilleur comme le pire. Le pire, c'est que la colère sociale se transforme en désespoir en l'absence de remontée ouvrière. Dans ce cas, les idées réactionnaires continueront de monter comme elles le font aujourd'hui avec les Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, avec les admirateurs de Napoléon et les généraux en manque de coup d'État. Et puis même avec ceux qui ont l'idée de gifler Macron. Et on ne peut pas exclure que demain, Le Pen accède au pouvoir et que la société devienne encore plus dure et plus autoritaire. Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes, y compris dans le monde du travail, qui se revendiquent anti-immigrés, voire suprématistes, et qui sont prêts à s'envoler derrière des aventures fascisantes. C'est un grave danger pour tous les travailleurs. Et il ne sera pas conjuré dans les urnes. L'influence du Rassemblement national dans la classe ouvrière provient du désarroi engendré par les reniements des gouvernements de gauche qui prétendaient représenter leurs intérêts. En fait, l'influence du RN dans les élections, elle exprime le rejet de la gauche. Alors, ce n'est certainement pas en s'alignant derrière ces partis que l'on peut combattre le vote Le Pen. Contre le danger d'extrême droite, il faut que les travailleurs offrent des perspectives pour changer la société. C'est dans le combat contre les injustices sociales et l'exploitation que le monde du travail pourra unifier toutes ses composantes, indépendamment des religions, des groupes ethniques, des origines nationales ou je ne sais encore quelle division barbare. C'est d'ailleurs lors des affrontements sociaux que Le Pen montrera son vrai visage, celle d'une politicienne bourgeoise à plat ventre devant le grand patronat. Les mensonges du Rassemblement national et sa démagogie portent parce que les travailleurs ne se battent pas sur leur terrain de classe. parce qu'ils ne réagissent pas, ne trouvent pas la force de réagir face à toutes ces attaques. La clé de la situation, je le redis, est dans la reprise des luttes collectives. Et celles-ci ne dépendent pas de nous. Celui qui les déclenchera, c'est ce grand patronat arrogant qui se permet tout aujourd'hui. En revanche, ce qui dépend de nous et de notre capacité militante, c'est d'offrir des objectifs de lutte à même de mettre le monde du travail en situation de force quand il se lancera dans le combat. Et c'est de faire vivre les perspectives révolutionnaires. Alors, loin des calculs électoraux, il faut montrer qu'il y a encore dans la classe ouvrière des femmes et des hommes qui connaissent la seule voie pour lutter contre les injustices et les inégalités de cette société. Lutter contre la bourgeoisie, faire reculer l'exploitation pour finir par la supprimer totalement. La bourgeoisie a une ribambelle de partis politiques. Il y a les partis de droite et d'extrême droite qui assument leur adhésion totale à l'ordre social capitaliste et leur dévouement à la grande bourgeoisie. Et puis, il y a les partis de gauche que l'on a vu maintes fois au pouvoir piétiner leurs propres engagements et les promesses faites aux travailleurs pour servir les intérêts patronaux. Ces partis de gauche puisent aujourd'hui leur inspiration chez Biden, le candidat de Wall Street et le président de la première puissance impérialiste du monde. Eh bien, cela ne dit rien de Biden, mais en revanche, ça en dit long sur ce que sont devenus les partis de gauche. Et ça montre surtout qu'ils sont tombés bien bas et qu'ils n'ont plus grand-chose à voir avec le mouvement ouvrier. Tous ceux qui veulent changer la société doivent tirer leur inspiration et leur force auprès du monde du travail, en partant des sentiments, des besoins, des intérêts et des luttes des travailleurs, des petites comme des grandes. Ils doivent tirer leur inspiration du présent et du passé du mouvement ouvrier, où il a existé des partis ouvriers révolutionnaires, en France et dans bien d'autres pays. Pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs et les mêmes pièges, ils doivent chercher leur boussole politique dans le capital politique que nous ont légué des dirigeants tels que Marx, Engels, Rosa Luxembourg, mais aussi Lénine et Trotsky. L'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire nous enseigne que notre force, c'est la force collective du monde du travail. Elle nous enseigne que ce sont les exploités, les opprimés, qui ont toujours fait progresser la société par en bas, contre les dirigeants de l'ordre établi. Elle nous enseigne que les politiciens, à la recherche de compromis et de solutions acceptables par la bourgeoisie, ne peuvent que trahir les intérêts des exploités. Oui, ceux qui n'imaginent pas notre société que celle régie par la loi du profit, du marché, de la concurrence, condamnent les travailleurs à leur sort d'exploités. Alors, il faut un parti pour le camp des travailleurs. Ce parti doit être communiste et révolutionnaire. L'état d'esprit des travailleurs est loin de cette conscience révolutionnaire. Mais la crise va déclencher des explosions de colère qui nous surprendront et qui accéléreront la politisation des nôtres. Car c'est dans les luttes collectives, massives et déterminées, que les travailleurs peuvent réaliser ce dont ils sont capables collectivement. Dans ces moments-là, la conscience peut faire des bons, à condition qu'il y ait des militants et un parti pour défendre les idées révolutionnaires. Lorsque les masses en lutte s'empareront de ces idées, de ces perspectives de changement total de la société, tout deviendra possible. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ce ne sont plus les idées complotistes ou d'extrême droite qui seront recherchées, mais les idées révolutionnaires et internationalistes. On verra aussi le meilleur de la jeunesse et des intellectuels, aujourd'hui obnubilés par leur carrière, se mettre au service des masses révolutionnaires pour construire une toute autre société. Mais encore une fois, pour ces moments-là, rares dans l'histoire, l'existence d'un parti révolutionnaire est décisive. Il restera minoritaire et à contre-courant tant qu'il n'y a pas de remontée de lutte puissante, mais il permettra aux femmes et aux hommes, à la jeunesse révoltée par le capitalisme, de se préparer et de propager dès aujourd'hui la conscience de classe, si nécessaire, au monde du travail. Son existence, y compris dans les combats électoraux comme ces élections régionales, est un gage d'avenir. Alors, dimanche, pas dimanche prochain, mais en 8, montrons qu'il y a dans le monde du travail des femmes et des hommes qui aspirent à la révolution sociale, au renversement du capitalisme, à l'expropriation de la bourgeoisie et qui veulent se battre pour le pouvoir aux travailleurs.